VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Nouakchott, 17h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Rwanda, plus de 1500 Burundais refoulés ces derniers jours par les autorités rwandaises. Le ministère burundais de l'Intérieur confirme l'arrivée de ses compatriotes en provenance de plusieurs localités du Rwanda. Mais une association de défense des droits de l'homme et des prisonniers note que des dizaines de ces expulsés sont arrêtés une fois au Burundi. Une affirmation démentie par un haut responsable du ministère burundais de l'Intérieur et de la formation patriotique. Plus de détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Terence Nairaja, assistant du ministre de l'Intérieur et de la formation patriotique, reconnaît que le flux de réfugiés burundais expulsés depuis le Rwanda voisin depuis ces derniers jours a déjà dépassé 1500 personnes. Tous ces refoulés burundais sont accueillis principalement dans deux provinces du nord du Burundi, Ngozi et Kirundo, pour pouvoir les venir en aide, comme le confirme l'assistant du ministre.
L'administration avait déjà réfugié 310 expulsés en provenance du Rwanda. En province de Ngozi, c'était au nombre de 218 et autres. Jusqu'hier soir, les expulsés du Rwanda étaient au nombre de 1520.
Les autorités burundaises du nord du Burundi indiquent que ces refoulés vivaient depuis plusieurs années au Rwanda. Ils vivaient de petits boulots. Certains sont même rentrés sans leur conjoint. Le coordonnateur de l'Association des volontaires pour la défense des droits de l'homme et des prisonniers affirme que certains Burundais qui retournent au pays sont emprisonnés une fois au nord du pays. Jean Nayabandi, traduit par un collègue du service Kirundi-Kinyarwanda.
L'association AVDP reste sur ses propos. Nous informons que certains Burundais refoulés sont emprisonnés parce qu'ils n'ont pas de papiers. Nous avons des exemples sur nous. Le nommé Nyonguru Eric de la province de Kayanza, le nommé Louai Télésor de la province de Kayanza, également Sengiumba Isaac, ingénieur d'Ngozi, et Saïman Ernest de Makamba et Manera Kizadiodone de la province Ngozi ont été refoulés du Rwanda le 10 mai, mais jusqu'à présent, ils sont toujours emprisonnés au cachot de la police dans la province de Kirundo.
Mais pour l'assistant du ministre de l'Intérieur et de la Formation patriotique, personne parmi les refoulés en provenance du Rwanda voisin n'a jamais été emprisonné, Terence Nairaja.
Le gouvernement est en train de recevoir les Burundais qui sont expulsés en vue de pouvoir les aider. Il y a certaines organisations de société civile qui commencent à répandre des mensonges, à l'occurrence, l'association des volontaires pour la défense des droits des prisonniers ADDDT, représentée par M. Jean Maya Wagao, et les rapatriés qui sont expulsés sont emprisonnés et ont été disquissés dans les différents cachots. Il y a même cité un nombre de 43, ce qui n'est pas du tout vrai.
Depuis de longs mois, la tension s'observe entre le Rwanda et le Burundi. Ce dernier accuse le premier d'abriter des rebelles qui s'entraînent à renverser les autorités de Bujumbura. Kigali a toujours démenti ces affirmations. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Génocide de 1994 au Rwanda, Claver Birinkidi, suédois d'origine rwandaise, a été condamné aujourd'hui à la prison à perpétuité pour génocide et crimes de guerre. Une peine assortie du versement de dommages et intérêts à une quinzaine de victimes rwandaises. Le point avec Saloua Djafari.
61 ans, Claver Birinkidi est arrivé en Suède en 2002, naturalisé 10 ans plus tard. Il avait été condamné par contumace en 2007 par un tribunal rwandais à 30 ans de prison. La justice rwandaise avait retrouvé sa trace après sa naturalisation et transmis le dossier au parquet suédois qui a repris l'enquête. Se fondant notamment sur les témoignages de survivants, le tribunal de Stockholm a considéré que Birinkidi avait occupé un rôle de commandement et a participé à 5 attaques entre avril et mai 1994, dont celle de la colline de Niamouré, où des milliers de civils ont été tués. C'est la 2e fois qu'un Suédois d'origine rwandaise est condamné pour des crimes commis lors du génocide. Stanislas Mbanenande avait également écopé de la même peine en appel en 2014 pour son rôle de commandement à un bas niveau. Déclenché après l'assassinat le 6 avril 1994 du président rwandais, le génocide a fait, selon l'ONU, 800 000 morts en 3 mois, essentiellement parmi la minorité Tutsi.
Dans le nord-est de la RDC, au moins 4 civils ont été tués par des rebelles ougandais des ADF à Irumu, dans la province de l'Ituri. Selon le gouverneur de la région, Jefferson Abdallah Penembaka, un centre de santé a également été pillé et incendié. Et toujours en RDC, l'opposant Moïse Katumbi, ex-gouverneur du Katanga et candidat à la présidentielle censée avoir lieu à la fin de l'année, ne s'est pas rendu aujourd'hui au palais de justice de Lubumbashi pour y être entendu dans le cadre de l'enquête sur un présumé recrutement de mercenaires. Et toujours à Lubumbashi, la cour d'appel de cette ville du sud-est du pays, du sud-est de la RDC, a reporté aujourd'hui au 6 juin la réouverture du procès de 34 bantous et pygmées accusés de crimes contre l'humanité et de génocide lors d'affrontements en 2013 entre leurs deux communautés. La Cour a constaté l'absence des victimes et accordé 3 semaines pour leur acheminement à Lubumbashi, a déclaré la juge Makongo Lenge, en soulignant que seules les victimes peuvent éclairer le tribunal dans sa quête de justice dans cette affaire. Depuis 2013, dans le nord du Katanga, les affrontements entre les combattants bantous de l'ethnie Luba et leurs adversaires pygmées du sous-groupe Batwa ont souvent donné lieu à des tueries, pillages et incendies de villages et déplacements de population, ce qui a conduit à l'inculpation en juillet 2014 de 34 bantous et pygmées pour crimes contre l'humanité et génocide.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
La lutte contre Boko Haram, environ 9 200 000 personnes ont besoin d'aide alimentaire dans le bassin du lac Tchad, théâtre d'atrocité du groupe islamiste nigérian, a indiqué aujourd'hui le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, soit environ la moitié de la population de la région. Selon OCHA, le conflit dans la zone a exacerbé l'insécurité alimentaire chronique dans la région, ainsi que la malnutrition, et a accru de manière catastrophique la vulnérabilité des habitants, ce qui a engendré la plus grande crise de déplacés en Afrique, avec plus de 2 400 000 personnes qui ont fui leur foyer à cause des violences et des mesures anti-insurrectionnelles comme l'évacuation de zones entières et les interdictions de voyager ou de commercer. Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence a entamé aujourd'hui par le Niger une mission de 4 jours qui le conduira également au Nigeria. Et toujours concernant le Nigeria, les syndicats ont appelé à une grève illimitée mercredi pour protester contre l'augmentation soudaine du prix de l'essence à la pompe. Le gouvernement nigérian discute aujourd'hui avec les syndicats en question pour essayer de les convaincre de renoncer à l'arrêt de travail. Idriss Fall.
Le Nigeria Labour Congress et le Trade Union Congress ont donné au gouvernement jusqu'à demain mardi à minuit pour réviser entièrement la hausse du prix de l'essence. Ces puissantes centrales syndicales avertissent que le débrayage devrait affecter les banques, ports et aéroports, les marchés et administrations. Bref, menace d'une paralysie totale. Mercredi, Abuja a relevé les prix du carburant de 67%, passant de 86 à 145 naira. Une hausse vertigineuse après des mois de pénurie. Pendant des mois, il y avait de longues files d'attente devant les stations d'essence. Le pays manque de devises étrangères car subit de plein fouet la baisse des cours du pétrole qui fournit 70% des revenus.
Campagne électorale aux États-Unis maintenant. Le président américain Barack Obama est sorti hier de sa réserve. Il a livré une critique en règle du populisme de Donald Trump, le candidat présumé du Parti républicain au présidentiel de novembre, sans toutefois le nommer. Lionel Gaïma.
C'était lors d'une cérémonie de remise de diplôme à l'université Rutgers près de New York. Barack Obama a dit aux étudiants de ne pas regretter un hypothétique âge d'or américain, rappelant que ce beau vieux temps n'était pas si bon, citant les discriminations raciales, la pauvreté ou la place des femmes. Il a ajouté aujourd'hui, le monde est plus interconnecté que jamais et construire des murs n'y changera rien. Une allusion à celui qui veut ériger un mur à la frontière avec le Mexique. Sans jamais citer son nom, Barack Obama a noté qu'aucun mur ne pouvait arrêter les épidémies de Zika ou d'Ebola. Pour le président américain, isoler ou dénigrer les musulmans ou suggérer qu'ils soient traités différemment aux frontières, c'est aller à l'encontre des valeurs américaines. Pour conclure, il a dit aux étudiants qu'en politique comme dans la vie, l'ignorance n'est pas une vertu. Il a ajouté que ce n'est pas cool de ne pas savoir de quoi vous parlez. Cela n'a rien à voir avec être franc ou dire la vérité. Pour le reste, suivez mon regard.
Et pour terminer le conflit en Libye, des ministres des Affaires étrangères européens, leur homologue des États voisins de la Libye et le secrétaire d'État américain John Kerry, ainsi que des acteurs internationaux, sont réunis à Vienne en Autriche pour discuter du chaos qui règne dans le pays miné par les divisions politiques et la menace djihadiste. La réunion se déroule à un moment crucial. Les djihadistes du groupe État islamique ont récemment étendu leur influence à l'ouest de la ville syrienne libyenne de Sirte qu'ils contrôlent depuis juin 2015. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.